Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de quand manger pour perdre du poids, donc à quelle heure, le matin, le soir et tout ça. On va parler de l'heure du sport également. Et on va parler de mémoire et peut-être, si on a un peu de temps, de la crise de la quarantaine. Bon, pour ceux qui sont intéressés du sujet de la crise de la quarantaine, j'ai fait un vaste sujet dimanche matin. Donc vous pouvez retrouver le lien directement dans les notes de ce podcast. Ça s'appelle « Transformer votre crise de la quarantaine en motivation ». Vous cliquez, vous y accédez et puis voilà. Et sinon, ici il fait pas mal chaud en ce moment, donc ça se dit pas trop comme ça, mais il fait entre 26 et 28 depuis 3 jours, donc au moment où le podcast sortira, à mon avis, il fera un peu plus frais. Mais c'est vrai que c'est pas terrible d'avoir des températures qui montent comme ça brutalement. Parce que bon, il y a aussi le taux d'humidité qui a monté énormément d'un coup. Moi, je suis assez sujet au temps humide, notamment au niveau de la sphère ORL. Et c'est vrai que c'est pas très agréable comme ça quand il y a des brusques changements. Mais par contre, le côté positif, c'est que j'ai pu pédaler comme un fou tout le week-end dans la forêt à côté de la maison. Donc, ce qui est plutôt bien, on va dire, pour remplacer le cardio sur le vélo d'appartement, quoi. Quand c'est un jeu, c'est toujours mieux, quoi. Voilà. Donc, le premier sujet, c'est quand manger pour perdre du poids et il y a des nouvelles révélations sur le timing des repas. Donc, il semblerait que le moment choisi pour manger puisse peser lourd dans la balance, carrément au sens propre, hein, puisque chez la souris, celle qui est active la nuit, une alimentation en journée entraîne une prise de poids plus importante que lorsqu'elle mange la nuit. Donc en gros, quand on la décale de rythme, si elle mange à l'inverse de son rythme, elle prend du poids. Cette observation laisse penser que manger à des heures inadaptées peut contribuer à un gain de poids disproportionné. Donc des études expérimentales sur l'humain montrent aussi des résultats intrigants. Limiter la consommation de nourriture la nuit peut aider à perdre du poids, bien que cet effet puisse être dû à une baisse de l'apport calorique global. Bon, c'est quasiment toujours le cas. C'est pas toujours, ça nous saute pas toujours au visage en fait. Une étude menée par l'armée américaine révèle que manger un seul repas par jour, le matin plutôt que le soir, favorise une plus grande perte de poids. Donc là, tout ce qui est, comment ça s'appelle déjà cette approche alimentaire là, je l'ai perdu. Il y en a plein qui le font, qui la font cette méthode là. Mince. Ça a un nom où on mange OMAD, One Meal a Day. Si vous le faites et que vous voulez sécher, c'est le matin qu'il faut le manger, pas le soir. Et je sais que c'est plus confortable de le manger le soir, hein, devant la série de la journée et le matin. Vous savez qu'on verra plus tard, mais naturellement, on a moins faim le matin. Donc les chercheurs ont également découvert que notre faim suit un rythme circadien avec un pic en soirée et un creux le matin, ce qui expliquerait pourquoi le petit déjeuner est souvent le repas le plus léger, mais aussi le repas le plus souvent skippé, sweepé, sauté, quoi. Et ce qui montre bien que de vouloir perdre du poids en mangeant plus le matin, c'est un effort, ça coule pas de source. Donc, utilisant un protocole de désynchronisation forcée, une autre expérience a démontré que nos cycles de faim sont régulés par des horloges internes et non uniquement par nos activités. Et enfin, même avec un apport calorique identique, manger le matin plutôt que le soir semble favoriser une perte de poids d'environ 2 livres par semaine. Bon, c'est pas les valeurs en kilos, mais ça permet de perdre du poids. Alors je sais que, comment dire, Il y a des choses contradictoires parce que d'un côté ils disent valeur totale calorique égale, on perd pas de poids, et puis d'un autre côté là l'étude dirait que, enfin l'étude, l'article dirait que si, mais en fait c'est le devenir de la calorie, des calories, comment dire, en fonction de ce que vous allez faire, en fonction de du moment de la journée. Si vous êtes dans un état où vous n'allez pas du tout mobiliser votre corps, donc peu vos muscles, par exemple, si vous mangez des calories provenant des sucres, leur devenir au niveau de l'organisme ne sera pas le même. C'est-à-dire qu'un muscle entraîné et entraîné et qui vient d'être entraîné aura une capacité à absorber du sucre bien plus importante qu'une personne sédentaire qui active jamais ses muscles, etc. Donc, on voit bien que le devenir de ce que l'on mange diffère. Donc, si au lieu de remplir les réserves de glycogène au niveau des muscles, ça vient nourrir les adipocytes au niveau du tour de taille et du tour de cul dans le miroir. Alors, sur la balance, à terme, ça se verra aussi, puisque le glycogène, quand vous stockez, vous le brûlez quand même assez facilement à l'entraînement. Le gras, tintin pour le brûler, hein. Même si on en brûle, c'est quand même un petit peu plus complexe d'aller grignoter les réserves de graisse que de vider ses stocks de glycogène. Mais bon, bref, ce qu'on voit là, quand même, c'est que, naturellement, on n'a pas très faim le matin. Et pourtant, c'est le repas où, si on veut perdre du poids, il faudrait manger le plus. Donc, on voit bien qu'encore une fois, ces histoires de manger à l'instinct et tout, ça fonctionne, si je dis pas, mais de manger à l'instinct, nos instincts ne veulent pas nous rendre secs. Notre instinct, il veut nous permettre de survivre. Donc, lui, il a aucune idée, notre instinct, des frigos, des rayons de supermarché. Lui, il voit calories stockées, survivre en cas de privation de nourriture. Donc, si la modernité extérieure, donc tout ce qui va être l'apport calorique disponible en permanence dans nos frigos et placards, induit forcément des approches où on va devoir aller un peu à l'encontre de notre nature. Oui, parce que si on s'écoute tous, on mange trop. Si on s'écoute réellement, enfin, il y en a qui ont, comment dire, un circuit comme ça, un circuit de la récompense, un circuit émotionnel lié à la nourriture qui est relativement sain, on va dire. Mais pour, j'ai envie de dire, la majeure partie d'entre nous, on aime tous manger une pâtisserie, ça nous fait plaisir. Du gras, du sucre, du sel, c'est plus appétant que de l'amer, de l'acide. Enfin, voilà, on est, comment dire, on est programmé, donc si vous êtes comme ça, en fait vous êtes normal, puisque on a évolué comme ça. Moi j'ai rencontré que très peu de gens qui avaient une relation parfaitement, comment dire, j'ai pas envie de dire saine, parce que ça voudrait dire qu'il y en a une malsaine, mais une relation complètement désintéressée avec la nourriture. J'en ai rencontré très 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 peu. Alors j'en ai rencontré il y a quelques années, c'était le... Bon, je vais pas dire qui c'est parce que bon, le podcast est quand même écouté. J'ai pas envie de raconter trop la vie privée, mais disons une personne très proche, un homme qui avait le matin, il pouvait manger n'importe quoi. Vous pouvez lui donner, n'importe quoi. Il était capable de manger une glace, un Snickers glacé et tout ça. Il avait aucun, et il mangeait pour se nourrir. C'est-à-dire que lui passait à table, il mangeait. C'était juste pour se nourrir et repartait quoi. Et en fait, déjà la première chose, c'est que, étant donné qu'il mangeait que pour se nourrir, il prenait pas du tout, enfin pour lui, plat préparé, vite fait et tout, voilà, il allait au plus simple quoi. Micro-ondable, zip, dézip et on mange et c'est terminé quoi. Donc même s'il n'avait pas une attirance forte pour la nourriture, le sucre et tout, il mangeait pas non plus des barquettes de brocoli. Donc ça restait tout de même une approche certes désintéressée, mais quand même avec des aliments qui sont pas mauvais au goût, en tout cas mauvais. Je vais pas dire que les brocolis c'est mauvais au goût, mais enfin on se comprend quoi. Vous avez compris. J'en mange quasiment tous les jours, mais je peux vous garantir que c'est le premier aliment que je mange et que je préfère derrière le morceau de viande ou le morceau de poisson. puis la source de légumineuses, de patates douces ou parfois un peu de riz complet que je vais avoir aussi. Voilà. Et peut-être qu'un jour, il faudra se dire que bah, finalement, bah, on n'a pas le choix, quoi. Il faut un peu se forcer à certaines choses parce qu'on a créé tellement de confort autour de nous, notamment au niveau alimentaire, que ce confort se paie tôt ou tard. Donc, si on veut pas y mettre un peu d'effort, c'est pas grave, hein, le tour de taille va s'élargir, les fesses aussi, les joues aussi. Et puis, si on veut essayer d'y mettre un petit peu de limite, eh ben, là, on arrivera à se réguler et vivre en accord, on va dire, avec les réserves de calories extérieures et notre propre corps, quoi. Donc, faites de la musculation, votre mémoire vous remerciera. Bon. Donc, la musculation... Alors, le premier article, c'était un article de Nutrition Fact que vous pouvez retrouver, donc le, alors qui est en anglais. Le deuxième article est un article de Cerveau et Psycho. Et là, il est en français, vous pouvez le retrouver en français. Donc, faire de la musculation, est-ce que votre mémoire va apprécier ? Donc, la musculation n'est pas seulement bonne pour les muscles, elle pourrait également renforcer votre mémoire. Une étude récente a mis en lumière les bienfaits de l'exercice physique, en particulier de la musculation, sur les capacités cognitives, notamment la mémoire. Donc, selon les recherches, l'activité physique régulière, incluant la musculation, stimule la production de certaines molécules comme le BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, essentiel pour la santé neuronale et la plasticité cérébrale. Ces molécules favorisent la création de nouvelles connexions entre les neurones, un processus central pour la mémorisation. Bon, on le savait déjà pour le BDNF, là, lié à l'activité physique, en partie liée au myokine, mais que ça agisse sur la mémoire, disons que aujourd'hui beaucoup d'entre nous, on s'en fout un petit peu que ça agisse sur la mémoire parce qu'on n'a pas l'impression d'en souffrir. Mais les plus épargnants d'entre vous y verront un intérêt pour le futur, c'est-à-dire davantage de mémoire, c'est-à-dire reculer l'âge d'une possible pathologie liée justement au déclin cognitif, à la mémoire et tout ça. Donc c'est une épargne de faire de la musculation aujourd'hui, c'est de l'épargne mémorielle, j'ai envie de dire, pour l'avenir. Ce qui n'est pas rien en fait, hein, puisque ce qui rejoint un peu le thème de la crise de la quarantaine, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il va falloir rendre les clés, quoi. Enfin voilà quoi, on va devoir rendre les clés du logement et puis s'en aller quoi. Et si vous avez compris la métaphore. Et quand on prend conscience de ça, le faire du sport, ça n'a plus qu'un aspect, ça n'a plus que l'aspect esthétique, ça a aussi l'aspect long terme, forme physique, capacité, etc. Et bien sûr, comment dire, bien-être, santé, quoi. Sur tout ça, quoi. Donc les bienfaits ne s'arrêtent pas là. En plus d'améliorer la mémoire à court et à long terme, faire régulièrement de l'exercice physique peut aussi booster la concentration, l'apprentissage et même la créativité. Donc pour tous les... D'ailleurs, Stephen King, donc je pense qu'en termes de créativité, il se pose là. C'est quelqu'un qui marchait régulièrement tous les après-midi. Je crois qu'il racontait dans son bouquin là, qu'il marchait tous les après-midi. Je crois qu'il faisait aussi, je sais plus si c'est du vélo d'appartement ou du tapis de course. Enfin, c'est quelqu'un qui essayait de se maintenir actif. Et d'ailleurs, ça se voit parce que si on voit les photos d'avant-après, il est bien plus mince après. Bon, après, quand il a arrêté l'alcool aussi et les drogues. Donc, booster... Enfin bon, je crois que les drogues, ça rend plutôt mince. Enfin, ça rend plutôt... Vous savez qu'il y a un... pour une anecdote, mais je sais pas si vous avez... Vous savez, je suis un grand fan. Un grand... nostalgique, mais en tout cas, je regarde, ça peut encore m'arriver de regarder, ou du moins de le mettre en fond, de la série Friends, comme beaucoup d'entre vous, puisque c'est une des séries les plus regardées sur Netflix, faut le savoir. C'est... Comment dire ? Il y a... Vous savez, cet acteur-là qui est décédé, Matthew Perry, il avait écrit, un an avant de mourir, en tout cas, était paru une biographie. Et il expliquait que son poids, si vous voulez voir, c'est quelqu'un qui était très addict à la drogue, aux médicaments, à l'alcool. Il a fait beaucoup de cures de désintox et tout. Il a beaucoup souffert de ça. Donc franchement, quand on voit ses performances à l'écran et quand on voit la vie horrible psychologiquement qu'il a pu vivre en parallèle de la série, on se dit mais c'est fou quoi. Et donc à un moment dans le bouquin, il dit, vous savez, quand si vous voulez voir à quel moment j'étais addict aux drogues et à quel moment j'étais addict à l'alcool, regardez mes fluctuations de poids. Addict à l'alcool, j'étais en surpoids. Addict à la drogue, j'étais en sous-poids. Donc maigreur, drogue, surpoids, alcool. C'est ce que lui dit dans sa biographie, il me semble. Reprenez-moi si je me trompe, mais et c'est pour ça, ceux qui connaissent bien la série, c'est celui qui a le plus de variations de poids, quoi. C'est impressionnant. En fait, disons que les autres peuvent avoir des variations de poids, mais elles vont dans un seul sens. Lui, en fait, il oscille entre minceur, surpoids, minceur, surpoids, minceur, surpoids, etc. quoi. Donc, j'en étais où ? Ouais, donc il n'est pas nécessaire de s'épuiser directement, mais une activité physique modérée suffit pour en tirer des bénéfices significatifs. Et le secret réside dans la régularité et le plaisir pris à l'exercice. Donc, choisir une activité qui vous plaît, qui stimule à la fois votre cœur et votre coordination, ça reste le meilleur moyen de profiter de ces avantages sur le long terme. Bon, de toute façon, c'est sûr que faire du sport, de pratiquer un sport, on va dire, ça reste quand même... disons que au-delà de l'aspect esthétique, qui est quand même hyper agréable, faut l'avouer, de se réveiller le matin avec des abdos, des pectoraux, des bras, des fessiers, tout ça bien galbé, bon, c'est plaisant. Mais c'est la première partie, c'est une des parts du gâteau, quoi. Une autre part, c'est aussi, moi personnellement, bon, maintenant je travaille debout, mais c'est vrai que le mode de vie qu'on a aujourd'hui, si on prend pas de recul dessus, on se rend bien compte que c'est pas normal, en fait. Si on prend du recul, plutôt, on se rend bien compte que c'est pas normal, cet excès de confort. Et toutes les personnes qui se sont bougées avec quelque chose de plaisant, pour certains, ça sera la danse, d'autres, ça sera le vélo, d'autres, ça sera la musculation, d'autres, ça sera peu importe, ils disent tous la même chose. Ça fait du bien, sur plus on a une vie sédentaire, plus ça fait du bien, en fait. Parce que il y a cet équilibre qui se crée, quoi. Le corps nous remercie de le dérouiller un petit peu. Donc, est-ce que faire du sport le soir, c'est une arme contre l'obésité ? Eh bien, pour les personnes obèses, faire de l'exercice le soir pourrait être plus bénéfique que pendant d'autres moments. Une étude menée par l'Université de Sydney a suivi près de 30 000 personnes pendant presque 8 ans, et les résultats montrent que les activités physiques modérées à intenses, pratiquées entre 18h et minuit, réduisent le risque de décès prématuré et de maladies cardiovasculaires. Ce type d'activité semble avoir des avantages significatifs pour la santé, surtout lorsqu'elle est régulière et bien intégrée dans le quotidien. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est sur l'obésité. Il me semble qu'une des premières choses qu'on pourrait dire par rapport à ça, c'est qu'évidemment, on voit bien que le sport a tout un tas d'effets positifs sur l'organisme. C'est-à-dire que au niveau des triglycérides, au niveau de la glycémie, au niveau de la sensibilité à l'insuline. Donc forcément, on sait aussi que les repas du soir, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont ceux qui feraient prendre le plus de poids. Si vous faites faire du sport à des gens qui prennent à un mauvais moment leur repas, vous allégez la charge de leur repas, pour la simple et bonne raison que, on l'a vu, hein, beaucoup d'études l'ont montré, que de faire du sport autour d'un repas qui va booster l'insuline, c'était améliorer ce score-là. Donc, c'était améliorer la sensibilité à l'insuline, donc améliorer le devenir des calories, ne pas conserver une glycémie trop haute, stocker moins de graisse, convertir moins d'excès de sucre et de graisse en tissu adipeux. Bref, ça se passe mieux au niveau du tour de taille, au niveau de la santé en général. Donc, c'est pas étonnant que de faire du sport à ce moment-là représente des effets plus intéressants. Puisque l'inverse, ce serait quoi? Ce serait de faire du sport le matin. Donc le sport serait très loin finalement de la fin de journée. Et donc il y aurait eu beaucoup plus de repas pris. Et si les repas, on le sait, sont de mauvaise qualité, bah ça met... Alors je dis pas, hein, si vous faites du sport le matin mais que vous mangez sainement, c'est pas la même chose. Hein. Au contraire, c'est même plutôt profitable. Mais pour la perte de poids, c'est vrai que de faire de l'exercice en fin de journée, moi je trouve ça un peu plus intéressant également, surtout pour les personnes qui ont du mal à alléger le repas du soir, vraiment, ben vous pouvez l'alléger par l'activité physique en fait, indirectement. Et donc ça m'étonne pas en fait ce résultat-là. Et c'est pour ça que je suis d'accord quand on dit que je suis totalement d'accord avec ceux qui disent que tout est une question d'apport dépense calorique. Et ils ont raison de dire ça. Mais il y a des nuances à l'intérieur des schémas, des cas particuliers et tout ça. Et en fait, on peut orienter la rapidité d'arriver des résultats. Et c'est pareil, par exemple, une prise de poids. Quand on dit une prise de poids, ça veut strictement rien dire, quoi. Parce qu'une prise de poids, ça peut être de l'eau, ça peut être du muscle, de l'eau, de la rétention d'eau. C'est du muscle, du gras, bon. Ça peut être également quelque chose dont personne ne parle, mais une prise de poids, ça peut tout simplement être un transit un peu plus lent, avec un ou deux repas de retard dans les entrailles. Donc du coup, ça se voit sur la balance. Ça peut être tout un tas de choses, la prise de poids. Par contre, ça n'est pas une prise de muscle en 2 jours. Ou ça n'est pas une prise de graisse en 2 jours. En 2 jours, quand vous avez votre poids qui oscille, c'est de la rétention d'eau et c'est des intestins qui sont pleins, très souvent. Donc, évidemment que la prise de poids peut être... Elle sera toujours la même avec, un apport calorique un peu plus élevé chez deux jumeaux, blablabla. Sauf que la nature des calories, s'il y a plus de protéines, moins de glucides et moins de graisses, et dans l'autre, il n'y a quasiment pas de protéines et il y a beaucoup de graisses et beaucoup de glucides, la prise de poids sera peut-être la même pour un apport calorique équivalent. Et par contre, il y en aura un qui aura pris plus de muscle que l'autre. Et il y en aura un qui aura pris plus d'aura que l'autre. Donc si on parle, effectivement, on regarde de très loin tous ces trucs de dépenses, apport calorique, c'est pareil, la prise de poids, la perte de poids, c'est la même, c'est très simple. Oui, mais le ratio à l'intérieur de cette prise-perte de poids, et si on veut la comprendre et si on veut la maîtriser, faut pousser plus loin que juste apport-dépense. Voilà. C'est un point de vue personnel, partagé par beaucoup d'études, hein. Mais je sais que ce sont des choses qui font débat, parce que il y a beaucoup de mauvais vulgarisateurs scientifiques et tout, qui veulent apporter un petit peu trop de simplicité, là où finalement, faut se rendre à l'évidence, hein. On maîtrise pas tout encore sur la perte de poids, ni sur la prise de muscle, ni sur la perte de gras, en tout cas sur la sèche, en partie parce que c'est pas forcément quelque chose d'hyper naturel, hormis en période de famine, quoi. Donc on n'a pas forcément envie de faire beaucoup d'études dessus non plus. On fait beaucoup d'études sur la perte de poids, donc pour les obèses, mais très peu sur la sèche. Bon, transformez votre crise de la quarantaine en motivation. Donc déjà, c'est quoi la crise de la quarantaine? La crise de la quarantaine, c'est un moment de remise en question qui frappe souvent entre 35 et 65 ans. Certains disent entre 45 et 65 ans, d'autres entre 45 et 55 ans. Bon, on peut affiner le curseur comme on veut, mais plus vous aurez vécu des choses un petit peu pénibles dans votre vie, plus ça arrivera précocement, on va dire. Alors pénible, ça veut pas dire une rupture comme n'importe quel individu, hein. Ça veut vraiment dire un coup dur. Ça veut dire, je sais pas, un deuil, enfin même une rupture que vous avez vécue comme très douloureuse, hein, finalement. Je vois pas pourquoi ça pourrait pas être dedans. Donc ça se manifeste par une réévaluation de la vie, marquée par l'irritabilité, un désir de changement, une sensation d'urgence à agir. Et les experts suggèrent qu'elle survient lors de la prise de conscience de la mortalité et des choix de vie. Donc cette période variable selon les individus peut s'étendre sur quelques mois, donc à plusieurs années. Bon, plusieurs années, ouais. Les conseils pour la gérer incluent une réflexion personnelle et si nécessaire, l'aide psychologique. Donc moi, en fait, j'ai trouvé une phrase pour résumer la crise de la quarantaine. En fait, une crise de la quarantaine, c'est comme le moment où vous êtes au restaurant et que vous recevez le plat que vous avez commandé et que vous êtes en train de vous demander si vous auriez pas mieux fait d'en choisir un autre. C'est ça, en fait, la crise de la quarantaine. C'est quand, à 40 ans, vous vous mettez à juger les choix que vous aviez faits, et ça arrive pas forcément à 40 ans, peut-être un peu avant ou un peu après, mais vous vous mettez à juger les choix que vous avez pu faire entre vos 18 ans et vos et aujourd'hui, et vous commencez à remettre un peu en question ça. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai choisi le bon boulot? Est-ce que j'ai choisi le bon lieu de vie? Est-ce que j'ai choisi le bon compagnon, la bonne compagne? Est-ce que, voilà, est-ce que je commence pas à regretter mes choix d'avoir voulu ou pas voulu d'enfant? Est-ce que, enfin bon, bref, tout un tas de choses comme ça, une remise en question. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi, c'est aussi le moment où on se dit, ben maintenant j'ai plus trop le droit à l'erreur, hein, parce que je commence à vieillir et ça se voit, et donc du coup je peux plus faire comme si j'étais le jeune premier, la jeune première, et ben si j'ai envie d'être en accord avec moi-même, il va falloir que je fasse des choses que je désire faire, en fait, hein, des choses que j'ai envie de faire, des choses qui me conviennent, de manière à ne pas rater la deuxième moitié de ma vie. Donc j'avais envie de faire un travail là-dessus, parce que un, j'en suis parfaitement concerné par cette tranche de vie. Deux, une crise de la quarantaine, même si le mot crise est péjoratif, ça n'est pas quelque chose de forcément désagréable. Ça peut être quelque chose, justement, d'un renouveau pour des personnes qui ont lutté toute leur vie face à... Ils sentent qu'ils sont toujours un peu à côté de leur basque, un peu toujours en mode fatigué, léthargique et tout. Ben justement, ça sera plutôt une période de libération pour eux d'accepter ce moment-là, de prendre un pivot et de basculer sur des choses beaucoup plus concrètes pour eux, pour elles. Et donc voilà, donc j'ai fait une enquête en fait sur la crise de la quarantaine pour essayer de trouver un petit peu les marqueurs, même s'il y en a qui disent que ça n'existe pas vraiment. Bon, on dit ce qu'on veut, mais il y a quand même à ce moment-là quelque chose qui se passe, vécu plus ou moins intensément par les gens. Et donc voilà, j'avais envie de faire un travail d'enquête là-dessus. Donc c'est en vidéo, vous retrouvez-le dans les notes de ce podcast-là. Et puis voilà. Donc si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de l'envoyer à quelqu'un qui l'appréciera aussi. Et merci encore une fois. J'ai été voir les avis que vous m'avez mis sur les plateformes de podcast. Ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes adorables. Vous êtes franchement, c'est quelque chose qui me touche, parce que ça demande un certain effort de mettre des avis, et ça me fait vraiment plaisir dans une ère où les gens ont la flemme, comme dirait Florence Foresti, de débrancher un chargeur d'une prise. Si vous avez vu son dernier spectacle là, merci, parce que je sais que ça demande un certain effort, qu'on est beaucoup sollicité au quotidien, notamment pour laisser des avis à droite à gauche. Et ceux qui le font, je me dis que vraiment, c'est qu'ils doivent apprécier. Parce que sinon, on passe notre chemin, quoi. Alors moi, j'ai pris le réflexe de le faire, hein. Tous les podcasts que j'écoute, que j'apprécie, ils ont le droit à mon avis. Et quand j'apprécie pas, je me casse, en fait. Je les emmerde pas, je me barre. Mais quand c'est bien, je le dis, je le fais savoir. Voilà. Et même, je le partage dans mes newsletters du vendredi. Je vous laisse ici, très bonne semaine à toutes et à tous, et si vous avez envie d'approfondir un des sujets, tous les liens sont en description. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition,
nutrition, du développement, ben voilà, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je... Alors, c'est un Netflix version fitness privé qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont, ben voilà, sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc, ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc, tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.